La nuit rêvée de Julia Kristeva. Julia Kristeva, bonsoir à nouveau.
Bonsoir Marc Fleuriot.
Nous sommes dans notre deuxième entretien cette nuit rêvée bleue, nous l'avons dit au tout début à propos de Giotto. Mais là, nous sommes à une autre époque maintenant, nous sommes à celle de Thérèse d'Avila par l'intermédiaire de Michel de Certeau. Vous dites à propos simplement de Thérèse d'Avila qu'elle a su extraire ce qu'il y a de vrai dans le fantasme que l'idéal existe, c'est-à-dire sa part fondatrice, indispensable à la condition du psychisme humain. Je parle de la vie intérieure de nos contemporains, de toi, de moi, du genre humain issu de la dernière glaciation et qui a progressé dans la civilisation pour culminé dans le culte des morts, du père mort, de son autorité, de son amour, bref, dans le fantasme de l'au-delà. Ça, c'est donc cité dans votre « Thérèse, mon amour » paru chez Fayard. Mais vous avez eu une expérience tout à fait, d'ailleurs vous-même, très intéressante et très particulière, très singulière avec Thérèse d'Avila.
Oui, j'ai été très sensible à ce que vous ayez pu trouver la voix de Michel de Certeau d'abord. Si vous permettez que je m'arrête dans cet onirisme que doit comporter notre nuit. C'est une personne que j'ai bien connue. Nous avons fait une série de réflexions à l'hôpital de la Cité universitaire de Paris sur la folie et la mystique. Et son livre, La fable mystique, m'a beaucoup stimulée dans la lecture que j'ai faite pendant une dizaine d'années de l'œuvre de Thérèse d'Avila. N'étant pas de formation chrétienne, n'ayant pas cette éducation, j'avais eu une proposition de faire un petit livre sur les grands maîtres spirituels de l'Occident. On a pas mal hésité. Et puis on m'a proposé Thérèse, que je connaissais pas du tout, sinon le séminaire de Lacan sur la jouissance féminine qui s'appelle Encore, et sur la couverture de ce séminaire il y a la fameuse sculpture de Bernini qui est à Rome, la transfiction. On voit Sainte Thérèse en train de jouir, pénétrer
la
transverbération, non, transfiction, je crois que ça s'appelle la transfiction, mais ce sont deux termes en effet qui concordent, et donc elle est pénétré par le dard d'un jeune ange qui emporte ses entrailles au paradis. Et là, la description de Thérèse est d'une telle beauté et d'une telle richesse de langage en effet, on peut penser une véritable jouissance physique. Alors, ce qui est très intéressant, peut-être, qui nous ramène à mes 10 principes, c'est que j'étais invitée au festival de la ville de Rome sur l'écriture et la littérature. Et j'étais invitée à parler du rapport entre l'écriture et l'extase. Et j'ai pris comme exemple ce livre que j'ai fait sur Thérèse et l'expérience de Thérèse. Et c'est à cette occasion-là que j'étais invitée par le cardinal Ravasi, qui m'a parlé du Parvis des Gentils qui a eu lieu à Paris pour la première fois. Ensuite, il s'est déplacé à Barcelone, à Tirana, et il ira aussi à New York et à Jérusalem. Mais le premier Parvis des Gentils a eu lieu à Paris, à l'UNESCO, à l'Académie française et à la Sorbonne, où moi-même et Axel Kahn, nous avons tenu le discours des non-croyants. Mais donc la rencontre, d'une certaine manière, entre le cardinal Ravasi, ou ses représentants, et mon discours sur Thérèse a eu lieu à Rome, à l'occasion du festival que la mairie de Rome a organisé, et ça se fait autour de Thérèse. Et moi, je suis de ceux qui pensent en effet que le baroque est un moment fondamental de la naissance de l'humanisme européen. Par exemple, Thérèse dit souvent « Christ como hombre », et on entend là le côté charnel de son expérience. Ou encore, quand elle dit « Je regarde comme impossible que l'amour se contente de demeurer stationnaire ». Vous voyez, cette liberté que l'amour soit multiple, qu'il traverse chacun dans ses différents compartiments, qu'elle va appeler le château de l'âme, mais aussi qu'elle traverse différentes relations. Il est possible d'avoir un amour qui n'est pas stationnaire. Et aussi, ce qui m'intéresse en tant que littéraire et en tant qu'écrivain, vous avez évoqué tout à l'heure mes romans policiers qui sont un peu spécifiques, un peu drôles. Vous avez dit, j'appelle ça, moi, des polars métaphysiques. Mais Thérèse dit... je fais cette fiction pour donner à comprendre. Vous voyez la richesse de cette parole d'une carmélite du siècle d'or, c'est la fiction qui permet à comprendre, et c'est une compréhension qui n'est pas l'ego cogito, mais qui est une autre forme de compréhension qu'on va trouver dans nos émissions qui suivent, explicitées, travaillées par la phénoménologie, par exemple de Merleau-Ponty, ou que d'une autre façon, quelqu'un comme Freud va approfondir avec l'association libre. C'est une compréhension qui n'est pas la cogitation. Et l'art va dans cette direction. Ou encore de Thérèse, qui la rapproche de ma conception de l'humanisme, quand elle dit « le mariage spirituel est destiné à produire des œuvres, des œuvres, des œuvres ». Donc ce n'est pas une contemplation passive, ça consiste à fonder des monastères, à s'adresser au monde, etc. Donc tout ce côté-là qui est déjà un pont entre l'héritage grec, juif et chrétien du côté du religieux et qui va dans un monde nouveau qui ira jusqu'aux antipodes. Et je termine là-dessus en disant que Freud, qui est mon socle, si vous voulez, qui m'accompagne dans cette traversée, dans cette transvaluation des religions, dit vers la fin de sa vie quelque chose que je trouve tout à fait fascinant et que j'aimerais que les gens entendent la nuit. Ça va faire des effets, je pense, plus que si on essaye d'entendre ça uniquement avec la raison éveillée. Mystique et psychanalyse s'attaquent au même point. Mystique et psychanalyse s'attaquent au même point. Et c'est quel point ? C'est le point où le langage et la pensée rencontrent les affects et les désirs. C'est ce qui se passe dans la nuit, souvent, dans les rêves, mais aussi dans nos amours, dans nos régressions, dans nos angoisses. Mais le mystique essaye de visiter ce point et de se libérer de l'emprise du divin. Quand Maître Eckhart dit « Je demande à Dieu de me laisser libre de Dieu », il parle de ça. Mais il essaye aussi de mettre en langage, de transmettre cette rencontre entre l'affect et le sens. Cette espèce de coupure dans l'humain qui peut être aussi une rencontre entre, nous dirons aujourd'hui, la biologie et le sens, le désir et la raison. C'est ce point névralgique qui est extrêmement précieux et sur lequel va s'appesantir aussi la philosophie la philosophie européenne. Et pour aller dans ce sens avec Thérèse, cette phrase qu'on ne connaît pas beaucoup, qui est écrite dans un de ses livres, mais qui n'a pas été recueillie, que les catholiques ne connaissent pas du tout, où elle dit, elle s'adresse à ses sœurs dans le Carmel, qu'elle a refondé d'ailleurs, pour le rendre à la fois plus fermé et plus intérieur, plus interrogatif, plus profond, plus jouissif, plus souffrant, pour approfondir l'expérience intérieure. Elle leur dit: mes sœurs, c'est interdit de jouer dans les monastères, mais je vous autorise à jouer. Et pourquoi ? Mais vous pouvez jouer aux échecs. Elle était une grande joueuse d'échecs. Et pourquoi vous allez jouer aux échecs ? Pour faire échecs et mat à Dieu. C'est extraordinaire. Mais d'ailleurs, ne croyez pas que je blasphème, dit-elle. Il y a une qui a déjà fait cela, c'est notre mère, la Vierge Marie. Et pourquoi ? Parce qu'elle lui a pris un enfant. Elle a joué avec Dieu et lui a pris Jésus. Et on est dans l'incarnation, qu'elle voit comme un jeu. Qu'elle voit comme un jeu, non pas comme un absolu, non pas comme une vengeance, non pas comme un nouveau système. L'homme est un jeu. Vous voyez, c'est une vision tellement libre de la religion qu'elle inaugure la liberté des Lumières.
Je crois que Jean-Paul II lui-même, s'il était si marial, c'est parce que Marie est précisément celle par qui, si le Christ impressionne trop, alors on peut accéder grâce à elle, à Dieu, à la foi ou en tout cas au mystère. Et ça, c'est tout à fait intéressant que vous citiez cette phrase de Thérèse d'Avila. Et il n'est pas un hasard non plus donc, que Jean-Paul II ait ouvert la voie, en quelque sorte, à l'écoute des non-croyants dont vous avez été une des représentantes.
On n'a pas dit qui était dans cette délégation. Je pense que c'est très intéressant, puisqu'on parle à bâton rompu, comme il se doit dans la nuit, de parler de cette délégation que j'ai eu l'honneur de présider. Elle se composait de quatre personnes. Un professeur italien de philosophie hegélienne, et on va entendre tout à l'heure dans les textes que j'ai choisis des interprétations de la pensée de Hegel. Un professeur mexicain de philosophie qui s'occupe des langages d'Internet, les nouveaux langages de la communication. Donc vous voyez, c'est le choix du Vatican a été assez judicieux. Et l'ancien secrétaire général du Parti communiste autrichien, qui est devenu le président d'une ONG qui essaye de moraliser le grand capital. Alors, vous voyez que tâche mystérieuse et impossible, mais voilà. Et moi, j'étais, en tant que femme, le chef, si on peut dire, de cette délégation. Ces gens du Vatican qui sont très forts, ils ont dit quelque chose de passionnant, à savoir que nous ne sommes pas une délégation qui représente une communauté. Chacun représente soi-même. Nous sommes des individus libres et des consciences libres. Et moi, ça me va tout à fait, parce que c'est cette singularité que je voulais qu'on représente.
Très importante précision. Parce qu'évidemment, c'est une des choses qui m'a d'abord, disons, heurté ou inquiété.
Mais ça peut inquiéter.
Comment se fait-il que...
Oui, nous ne représentons pas une communauté. La communauté des non-croyants n'est pas homogène. Voilà. Mais le fait qu'ils aient tablé sur le fait que nous sommes des individus libres, une conscience libre, moi, je pense que c'est l'essence de l'humanisme, la culmination des droits de l'homme, de garder la liberté de conscience de chacun.
Julia Christophe, Nous parlons là des 10 principes que vous avez pu énoncer, 10 pour l'humanisme du 21e siècle, c'est votre intitulé, lors donc d'une grande conférence religieuse, interreligieuse à Assise le 27.
Et où la première fois, si vous me permettez, j'insiste là-dessus, ont été invités de non-croyants. Et ça pouvait paraître comme une sorte de complaisance ou quelque chose de publicitaire, de la com. Mais je tiens beaucoup à rappeler les propos de Benoît XVI, qui a parlé après moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a dit dans un premier temps que peut-être nous sommes, nous les non-croyants présents là, en souffrance parce que nous n'avons pas la vérité qu'ils ont. Mais, et à ce moment-là, nous pensions, notre petit groupe, à dire qu'il y a là un problème, que nous sommes en désaccord avec cette assignation à la souffrance qui nous est proposée. Mais il a continué, Benoît XVI, et là je suis dans l'honnêteté intellectuelle de dire que j'admire ce qu'il a dit. Il a dit « ces gens-là nous donnent une leçon, je résume évidemment, à savoir que personne n'est propriétaire de la vérité, que la vérité est un combat, un chemin, un travail intérieur, et je m'adresse aux non-croyants de prendre exemple sur nous, sans quoi nous allons à la guerre. » Et je trouve ça magnifique. Évidemment, le Vatican...
La guerre, là, il fait allusion à la guerre interreligieuse.
Interreligieuse,
bien sûr.
Voilà.
Et l'assignation
à la
souffrance.
Et la guerre des dogmatismes. Si vous êtes propriétaire d'une vérité et votre collègue à côté ne croit pas à cette vérité et vous lui faites la guerre, ça peut se faire au nom d'idéaux soi-disant humains,
d'accord,
sinon humanistes.
Et l'assignation à la souffrance dont vous parliez, c'était à la souffrance du doute, bien entendu.
La souffrance du fait que nous n'avons pas, nous n'embrassons pas Jésus et la promesse de la vie éternelle. Mais on en parlera avec Pascal.
Avec vous, Julia Christeva, nous avons choisi donc des émissions, et des émissions cette fois-ci encore une fois, illustrer la série des 10 principes que vous avez énoncés à Assise en 2011. Pour commencer, la philosophie française. La philosophie française avec Maurice Merleau-Ponty, Jean Beaufret, Jean Hippolyte. Pourquoi avez-vous choisi effectivement cette approche de la philosophie française?
Oui, parce
panoramique.
Que ces 10 principes que j'ai proposés concernent évidemment la formulation de valeurs que la philosophie de l'humanisme se doit à formuler. Mais cette reformulation des valeurs passe par la réinvention d'un langage. Et je suis très attentive et très soucieuse de cette nécessité de trouver de nouveaux langages. Non seulement parce que l'évolution des médias maintenant montre qu'il y a de nouveaux langages qui parfois s'éloignent de l'expérience intérieure, mais qui arrivent avec une grande rapidité et développent d'autres formes de cognition et de contact, mais surtout parce que l'expérience que vous avez employé comme terme, qui est à la fois expérience mystique dans l'histoire des religions, qui a pu conduire à des horreurs, des massacres, des inquisitions, des pogroms, et nous connaissons tout cela, et l'humanisme a combattu ces excès, mais qui est aussi une expérience qui s'est développée dans l'immense expérience esthétique de l'Occident chrétien et post-chrétien. Est une expérience créatrice de nouveaux langages. Et je reprends la phrase de Dante que nous avons évoquée à un moment de cette nuit. L'humanisme est un transhumanard, un outrepassement de l'humain.
Dans l'humain.
Dans l'humain, qui veut dire la création d'un nouveau style à chaque fois. Et Dante a créé ce nouveau style, qui est la langue italienne nouvelle. Mais il se permet aussi beaucoup de néologismes, parmi lesquels il y a ce mot transhumanard. Et il a aussi néologisme que je commande souvent devant mes étudiants, c'est indova, c'est-à-dire se nouer. Et nouer quoi ? Nouer la chair et l'esprit. Le passé et le présent, comme est l'exemple de cette innovation, de ce nœud, et la rosace. Parce que dans la rosace, vous avez quelque chose qui s'incarne et qui est très spirituel, le sensoriel et le sensible. Le sensible et le signifiant. Et dans ce souci de trouver le concept de cette rencontre entre le sensible et le signifiant, la philosophie, on va dire, post-Husserl et à travers Heidegger jusqu'à nous, a beaucoup, beaucoup contribué. Je pense tout particulièrement à l'œuvre de Merleau-Ponty que nous allons écouter.
Oui. Sur la perception, bien sûr.
Sur la perception, voilà. Oui. Et tout particulièrement, un texte qui est évidemment absolument important pour lire des auteurs comme Proust, par exemple, aujourd'hui, et son expérience sensible, et dans lequel il n'est pas très loin de l'expérience mystique. On peut lui reprocher aussi, mais on peut le féliciter pour cela. Par exemple, quand il dit « Le monde n'est pas dans mon corps », et mon corps n'est pas dans le monde visible, chair appliquée à la chair. Il y a insertion réciproque et entre là, de l'un à l'autre, de sorte que voyant et visible se réciproquent et qu'on ne sait plus qui voit et qui est vu. Et l'exemple de cette rencontre, moi et le monde, chair à chair, moi et vous, Marc, et vous et telle autre personne, c'est comme les deux mains qui se touchent et on ne sait plus. Quand on est dans l'interface, dans l'entre-là, qui touche quoi ?
Qui touche quoi ? Qui touche
quoi ? Et c'est cette immersion, c'est ce point que la phénoménologie de Merleau-Ponty, par la théorie de la perception, essaye de non pas d'expliciter au sens cartésien du terme, mais de traduire en s'approchant du langage de la littérature, d'où son intérêt pour Proust.
Et pour Cézanne.
Et pour Cézanne, tout
oui.
à fait.
Oui, et d'ailleurs aussi, mentionnons, mais ils vont le faire tout de suite d'ailleurs, d'emblée, ces philosophes, ils sont tous d'accord pour dire que c'est avec Bergson, en fait, que ça commence. Hein. Voilà, cette philosophie moderne, disons, française. Mais les avant-gardes du XXe siècle, vous en avez touché un mot à l'instant, en disant qu'il y avait l'expérience des sensualités, l'expérience des formes, l'expérience de l'invention des formes. Et je crois que, bon, avec Jean-Dève, nous allons voir à 3h25 ce qu'il en est. Et nous avons là une ribambelle de noms qui vont de Pierre Guyotat à Alain Tanner, en passant par Godard, Pipi le Tiriste, Jonas Mekas, y compris donc des œuvres underground, des œuvres érotiques. Abby Warburg, bien sûr, est fondamental pour Georges Didier Huberman, qui est le témoin principal en tant qu'historien des arts et de l'esthétique, le témoin principal de cette émission. D'ailleurs, qui démarre avec quelque chose d'intéressant, qui est c'est Les Immatériaux, mémorable exposition de 1985 organisée par Jean-François Lyotard. Eh bien, je crois que nous ne pouvions faire mieux à partir de là que de continuer à 85 avec Blaise Pascal. Voulez-vous, Julia Kristeva, nous toucher un mot sur ce qui a déterminé votre choix de Pascal, qui est un choix, bien entendu, qu'on oublie parce qu'on l'entend à l'école tout petit, ça fait partie de notre culture, mais il est bon de se faire rappeler quelquefois certaines notions.
Mais écoutez, vous me donnez l'occasion de dire que mon intérêt pour le catholicisme doit beaucoup à Philippe Solers, dont on a entendu aussi le paradis tout à l'heure, et qui est un effort, là aussi, une grâce à trouver un langage à cette expérience intérieure, qui est un langage chez lui sans ponctuation, qui est le flot de la parole et qui est en même temps très construit à la fois vocalement, musicalement et aussi en sélectionnant dans l'histoire de la pensée des hauts lieux de la philosophie et de la théologie. Et Pascal est pour lui aussi un de ces lieux mémorables qu'il a retrouvé, et moi aussi avec d'autres dans la période telle qu'elle et encore aujourd'hui dans le mouvement de l'infini, Pascal qu'on a retrouvé dans l'Otréamont. C'est ce que vous disiez, qu'on a on bassine les élèves peut-être dans le passé, plus maintenant avec Pascal, malheureusement d'ailleurs, mais on sait moins que l'Otréamont a beaucoup utilisé Pascal pour le réécrire. Et dans son dernier recueil Fugue, Solers a recueilli aussi un texte concernant Pascal. Moi, je m'intéressais à lui, j'avais souhaité qu'il soit inscrit dans notre programme parce que je parle dans le dernier principe, je parle de Paris. Je dis que l'ère du soupçon est révolue. Il n'est plus valable, il n'est plus efficace, le soupçon, entre religion et non-religion, entre humanisme laïque et l'humanisme religieux. Ça suffit, ça ne mène à rien. Le temps est venu du pari d'une transvaluation possible. C'est-à-dire que nous sommes l'héritier d'un grand continent, essayons de nous approprier ce continent et de le transvaluer. Et c'est le mot de Paris qui m'intéresse, et peut-être je dirais quelques mots juste à propos de cette belle émission qu'on a sélectionnée concernant la pensée de Pascal, qui est immense, qui touche la science, l'expérience intérieure, etc. Ce qu'on retient surtout de lui, c'est cette histoire de Paris. Le parieur aura parié sur une chose certaine et infinie, qui est tout simplement la vie éternelle. Et selon Pascal, pour cette chose-là, il n'aura rien donné. Et c'est pourquoi il dit, si vous gagnez, vous gagnez tout, et si vous perdez, vous ne perdez rien. Donc encore une fois, il s'agit ni plus ni moins que de la vie éternelle. Et Pascal ajoute à ce pari le fait que celui qui fait ce pari arrive à un point qui est l'infini. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Celui qui aurait trouvé le secret de se réjouir du bien sans se fâcher du mal, contraire, aurait trouvé le point, c'est le mouvement perpétuel. Donc, dans ce pari sur la vie éternelle, vous arrivez à ce secret qui vous fait vous réjouir d'un bien qui vous est promis, sans pour autant vous fâcher contre le mal, parce que vous avez devant vous l'éternité, et à partir de cette habitation de l'infini, vous êtes dans le mouvement perpétuel. Alors question, qu'est-ce que nous humanistes, nous offrons ? Quel infini ? Nous n'offrons pas l'infini du divin, parce que nous mettons un point d'interrogation là-dessus. Mais nous offrons l'infini, d'une part, du genre humain, de la chaîne humaine, mais aussi de l'infini de l'interrogation, qui n'est pas un système absolu, mais qui est le questionnement permanent qui fait partie de notre vie intérieure.
Et ce qu'appelait Freud le transfini de l'analyse.
Voilà, c'est l'infini de la transfini de l'analyse. Et donc, si nous gagnons cela, si nous gagnons cet humanisme...
Alors là, vous êtes dans la stratégie. Vous êtes
je suis dans une stratégie
dans pesée,
parce que j'ai dit que nous faisons un pari sur l'humanité. Ouais. Et si je fais ce pari, je me risque. Contrairement à Pascal qui dit « vous perdez rien », Moi, je me risque, parce que si je parie sur l'humanité, sur la capacité des humains, non pas d'être dans des systèmes totalitaires et totalisants, mais sur des interrogations qui les rendent attentifs aux autres, dans le soin et dans le respect et dans la continuation de l'élaboration des valeurs, donc je fais un effort pour ça. Donc je participe, et si je perds, je ne perds pas rien. Je perds ma subjectivité et je perds l'humain. Mais si je gagne, je gagne cette humanité-là, et c'est là-dessus que je parie.